Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Avec sa voix rocailleuse, on le connaît d'abord sans doute pour ses rôles sur les planches ou sur les écrans de cinéma ou de télévision. Il faut dire qu'il a trimballé sa gueule d'acteur dans près de 70 longs métrages avec Truffaut, Godard, Lelouch, Cabrol, Schroeder et bien d'autres. Mais Jean-Pierre Calfon est un homme qui a vécu sa vie à 100 à l'heure et peut-être même plus. Dans son moteur, il n'y a pas eu que de l'eau, loin s'en faut, mais toujours une passion dévorante et notamment une passion pour la musique, le jazz d'abord et ensuite le rock'n'roll. Cette passion, il la partage à nouveau avec nous aujourd'hui à travers un album au titre plein d'humour et d'ambivalence, Méphistophélange, un hommage à Amy Winehouse. Méphistophélange de Jean-Pierre Calfon est sorti chez Deviation Records et vous m'en direz des nouvelles.
Plaisir sans gêne de se garder des fouilles, combines obscènes, sournois en brouille, de mauvaise foi pro.
Bonjour Jean-Pierre Calfon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on est tout de suite là, ça y est, dans l'univers rock'n'roll et ça fait du bien, je ne vous le cache pas. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bon, cet album, rassurez-nous et dites-le tout de suite, ce n'est pas uniquement pour choper le cash.
Pas uniquement, non, c'est aussi pour se faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui l'écouteront et ceux qui voudront bien l'écouter.
Le plaisir, c'est un des moteurs de votre carrière ?
Bien sûr. Parce que dans la vie, c'est bien beau de travailler, mais si vous ne travaillez pas avec plaisir, c'est quand même un peu... Il y a beaucoup de gens qui travaillent sans plaisir, hein, malheureusement.
Il y a même beaucoup d'artistes et d'écrivains qui travaillent dans une forme de souffrance.
Peut-être, oui, peut-être. Moi, bon, on a toujours... C'est toujours plus ou moins difficile quand même de faire la chose. Hein. On a du mal à aboutir des fois, mais quand même, on fait un métier dans lequel on dit « je vais jouer ». Je vais jouer de la musique, je vais jouer au théâtre, je vais jouer au cinéma, je vais jouer à la télé, je vais jouer. Jouer, ça a quand même un côté enfantin, quoi.
Un côté ludique.
Et le côté ludique, voilà.
Alors, pour vous, c'est votre troisième, votre deuxième, votre premier album. J'ai des infos complètement contradictoires. Alors, éclairez-nous un peu, parce qu'il y a eu des projets, il y a eu des choses non abouties, des choses qui sont sorties, mais vous n'étiez pas toujours très fier. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Si, je suis... Bah, non, c'est pas que je ne suis pas fier, c'est que je ne suis pas fier de ce qui a été fait. Ce qui a été fait n'était pas toujours très bien abouti. C'est le deuxième album que je fais, mais le premier, il a été fait après avec des maquettes, et des maquettes qu'on a améliorées après en studio, mais... j'en étais pas très satisfait, voilà. Et sans ça, j'ai fait pas mal de 45 tours, des musiques de films, des chansons de films, tout ça, oui. Ça fait pas mal. Depuis mon premier 45 tours, c'était en 1965 ou 66.
66, ouais.
Voilà. Alors, j'ai taillé la route. Vous savez. Puis il y a eu tout. Le premier vrai album, c'était les chansons du film Les Idoles. Ça aussi, on a fait ça chez CBS. Voilà, ce qui n'existe plus d'ailleurs, CBS, maintenant.
Non, pas encore, les choses ont changé. Alors vous sortez justement ce nouvel album chez un label dont l'existence n'est pas complètement inconnue, mais pas très loin, qui s'appelle Deviation Records. Eux qui sont venus vous chercher, Jean-Pierre Calfon ?
Eh bien écoutez, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu comme ça, oui. C'est-à-dire que... Un de mes amis batteurs qui joue, Amaury Blanchard, qui joue dans l'album. Ils sont deux batteurs, suivant leur liberté, François Causse et Amaury Blanchard. Il était à Amiens, il a rencontré quelqu'un, Eric Parent, qui ils se sont mis à parler de différentes choses. Et à un moment, ils se sont mis à parler de moi. Et Eric Parent a dit « Oh, mais moi, je connais quelqu'un qui pourrait le produire. » Et il a donné à Amaury le numéro de téléphone de la maison de Déviation. Et Amaury m'a donné le téléphone, j'ai appelé et j'ai envoyé des maquettes, ça a plu. Et voilà, c'est parti comme ça. Sorti... Alors qu'avant, quand je cherchais, ça faisait un moment que je sortais une maison de disques pour me produire, et je ne trouvais pas. Mais quand je ne cherchais plus, c'est arrivé. Voilà. Voilà.
C'est ainsi le hasard de la vie qui peut donner comme ça quelques accélérations bienvenues. Alors la devise de ce label, Deviation Records, c'est une phrase de Frank Zappa. Sans écart par rapport à la norme, le progrès n'est pas possible. C'est une phrase que vous reprenez à votre compte ?
C'est comme on dit que je suis marginal. Mais oui, c'est vrai que je suis marginal, mais c'est aussi dans la marge qu'on corrige les fautes de la pleine page.
Et hein? Donc c'est en faisant un écart, en quelque sorte,
bien sûr,
que l'artiste devient artiste, en quelque sorte.
On peut pas rester,
rester dans la norme,
pas rester comme des moutons dans la. Oui, c'est, on peut pas être garder la ligne de tout le monde. Il y a un moment où il faut apporter sa petite pierre, des fois, c'est une pierre d'humour, d'amour, de tendresse, de force, de joie. Voilà. C'est comme ça qu'on se définit. Se définir, c'est aussi choisir au milieu de toutes les choses qu'il y a dans le monde, c'est choisir le chemin qu'on veut prendre. Et des fois, ce chemin, il s'écarte des sentiers battus, quoi.
Et vous, des écarts, vous en avez fait pas mal et pas qu'un peu. Hein. Vous êtes notamment beaucoup et sans doute un petit peu trop intéressé à certaines substances pour parler pudiquement. Vous aimez bien d'ailleurs ce mot substance. Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
C'est pour éviter de dire tous ces mots sur les mots sur la drogue et sur les choses comme ça. Vous voyez, c'est un terme générique. C'est un terme générique pour l'époque. C'était une époque qu'on a appelée la parenthèse enchantée, dans laquelle toute une génération s'est engouffrée, et ça n'a pas réussi à tout le monde. Beaucoup de mes amis sont morts, et il y en a toujours des amis qui en meurent. Regardez par exemple Amy Winehouse, elle a été happée par toutes ces histoires. Elle aimait bien l'alcool déjà, elle, et puis elle est tombée sur des gens qui l'ont entraînée dans la grosse dope, dans les roses, dans la coke, dans le crack, dans des trucs comme ça, et finalement elle est morte. Elle fait partie de la génération des 27 ans.
Et vous regrettez justement d'avoir succombé à ces substances, d'en être devenu l'esclave, alors que vous cherchiez plutôt justement une forme de liberté, Jean-Pierre Calfon ?
Oui, je sais, mais j'ai réussi à me libérer, moi, de tout ça, d'un seul coup quand même. D'un seul coup, oui.
C'est rare.
C'est-à-dire que j'avais cherché à m'arrêter, les cigarettes, les trucs, et tout ça, et les substances, et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et d'un seul coup, j'avais un concert à faire au théâtre des Jazzets, il y a 4 ou 5 ans. Et je travaillais chez moi et je trouvais que je respirais mal. Et d'un seul coup, j'avais essayé de m'arrêter de fumer avec les patchs, avec la cigarette Vapo, ou les chewing-gums, mais tout, rien ne marchait. Et d'un seul coup, par la volonté que j'ai eue de faire un bon concert, je me suis arrêté du jour au lendemain, paf, comme ça, et j'ai jamais repris. Et j'ai eu l'impression d'être libéré d'une chaîne, voilà.
Barrière, le patron s'est fait voler les clés. On dirait bien une première où le public s'appelle René. Toutes les portes te sont ouvertes aujourd'hui, de jour, de nuit. Sans resquille, l'entrée offerte, plus d'un tour dans ton sac gratuit. Tu fais partie de la partie. C'est tout de suite, c'est ici, tu fais partie de la partie. C'est tout de suite, c'est ici. Le sourire est à l'accueil, le pourboire a tout compris. Les musiciens à la feuille pour satisfaire tes envies. Celui qui veut cacher la fête se dirigera vers la sortie. À la place réservée aux traîtres pour calculer ses amis. Et toi tu
Partie de la partie, nouvel extrait de Méphistophélan, le nouvel album de Jean-Pierre Calfon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites partie de la partie avec un Y, justement, Jean-Pierre Calfon. Déjà, sur votre biographie, avant même vos années Palace, il était indiqué que vous étiez boy aux Folies Bergères. Ça veut dire quoi, boy ?
Boy, ben, vous savez, il y a les girls. Vous avez entendu parler des Bluebell Girls, qui avaient au Lido, tout ça. Ben, il y a aussi, en même temps que les Bluebell Girls, il y a des boys pour danser avec les girls, voilà. Ouais. Et ça a été un de mes premiers cachets pendant 5 mois.
Et c'est ça qui vous a permis, je crois, de vous payer des cours de théâtre.
Voilà, un peu les cours de théâtre à l'époque. C'était au TNP de Jean Villard.
Excusez du peu.
Oui, il y avait les grands acteurs comme George Wilson, Alain Cuny, Jean-Pierre Darras, tous ces gens-là donnaient des cours. Et c'était merveilleux. Malheureusement, n'ayant pas beaucoup de culture, n'ayant pas d'éducation, puisque j'ai quitté le lycée en troisième, et j'ai même pas fini la troisième, j'étais pas tout à fait capable de... Quand on me donnait une scène à jouer, à travailler, bah, je lisais pas la pièce, je lisais juste la scène. Donc je savais pas
facile de rentrer dans le personnage.
Bah voilà, oui, parce que je savais pas d'où il venait, je savais pas où il allait. C'était un peu une fumisterie de ma part. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais vous avez passé le cap, visiblement.
J'ai passé le cap, et puis petit à petit, j'ai monté des pièces. Et quand on monte des pièces, il faut bien les lire. Les lire en entier. J'ai même adapté une pièce anglaise de John Ford, « This pity she's a whore », dommage qu'elle soit une putain que j'ai montée. Et voilà, quoi. Et après, il y a des gens qui sont venus me faire monter leurs pièces. Ils avaient un peu de monnaie, alors que moi, la première, il n'y avait rien. J'ai été suivi par 15 comédiens, comme ça. Et voilà, les choses s'enchaînent. Après, vous savez, vous faites un truc qui s'appelait, et il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main, je trouve. Enfin, pour moi, ça, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie, quoi.
Mais vous avez aussi saisi des occasions, saisi des mains, et vous êtes aussi un homme de rupture, puisque la première de vos transgressions, Jean-Pierre Calfon, c'est la fugue à l'adolescence. Pourquoi est-ce que vous êtes parti de la partie?
Parce que on ne me laissait pas faire ce que je voulais. Avec mes parents, c'était des petites gens. Ils auraient voulu que je devienne médecin ou avocat, que je grimpe dans l'échelle sociale pour faire artiste. C'était pour eux.
C'était inimaginable.
C'est finir clodo. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire pour eux.
Et donc vous avez pris votre destin en main. Et avec vos pieds.
J'ai tout fait. Je pouvais pas respirer. On me laissait pas sortir. On me laissait pas avoir des copains ni des copines, rien du tout. Donc j'étais complètement. C'est par gentillesse, hein. Mes parents, qui étaient comme ça.
Ils étaient inquiets de votre avenir.
Ils étaient inquiets de mon avenir, donc ils essayaient de m'emmener vers quelque chose qui était leur destinée, mais pas la mienne. Voilà.
Et donc la musique, dès le départ, pour vous, c'était une forme de rébellion?
Ça a été une forme de rêve, de soulagement. Il n'y avait pas de musique chez moi, il n'y avait pas de disque, pas de tourne-disque, il n'y avait rien. Il y avait la radio. Et la radio. Il y avait des émissions de radio, il y avait du jazz, il y avait du blues, il y avait du boogie, toutes ces choses-là qui me parlaient et que je cherchais sur les radios quand mes parents étaient pas là, quand ils sortaient le soir. Moi, je passais mon temps à chercher de la musique qui me plaisait. Et en plus, avec les copains qui vous donnent, vous savez, il y a quand même les copains qui connaissent un peu, qui ont des disques, qui ont des trucs et tout, et qui vous font découvrir des choses, comme ça, découvrir des grands chanteurs, des grandes chanteuses, Billie Holiday, Bessie Smith, comment ça s'appelle, peu importe.
Pas mal de jazz aussi, je crois, dans vos premières années. Beaucoup. Vous avez pas mal fréquenté les clubs de Saint-Germain-des-Prés.
Les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Et quand j'ai flugué, c'était à Bruxelles, et j'allais tous les soirs dans des clubs de jazz et tout, et on entendait le jazz, le boogie, le blues, tout ça, ça m'a nourri, ça m'a fabriqué, quoi. C'est la chaleur humaine de cette musique, quoi, de la musique black.
La paix se gare à l'ombre, pas de quoi crier victoire. Quand même l'horizon sombre qui parle encore d'espoir.
passe la voix. Collé, calé, télé, menaçant le sort. Grand chef a dessiné des tas de têtes de mort, pas des cœurs d'amour. À venir dans la nuit, noir la nuit, peut-être des tonnes de bombes. Militaires, ses habits, plus d'abri, mais des bombes, mais des tombes. Pour parler, ne rien dire. À l'écran, ces poiscailles qui ne savent plus sourire, impuissants au voter la bataille. À venir dans la nuit, noire la nuit, peut-être des tonnes de bombes. Militaires, ses habits, plus d'abri, mais des bombes, mais des tombes. Une guerre bougerait le cul. Désir, mieux qu'un show, qu'une revue, juste avant l'heure de faire dodo.
Et c'est avec cette chanson intitulée Noir la nuit que l'on entre dans cet album. Jean-Pierre Calfon, c'est une de mes chansons préférées, je ne vous le cache pas. Quelle est l'origine de
Alors, Noir la nuit? L'origine de cette chanson, c'est que j'avais écrit une première version qui n'avait rien à voir avec ça, qui parlait de la nuit parisienne qui était morte par rapport aux nuits des années 70, où il y avait le Palace, les bains-douches, l'Élysée Matignon, où on rencontrait des gens comme Gainsbourg, comme enfin, plein de gens comme ça. Et la nuit parisienne était très, très, très swingante, quoi, très musicale, très joyeuse, très pleine de substance aussi. Et c'était la folie. Et j'avais écrit ça. Donc, et d'un seul coup est arrivée la guerre en Ukraine. Et d'un seul coup, moi, j'ai pris ma plume et j'ai dit, allez hop, il faut écrire quelque chose d'autre.
Alors, comment on passe des nuits du palace aux nuits guerrières en Ukraine, Jean-Pierre Calfon?
Ben, on y passe parce qu'on se rend compte que la vie, c'est pas comme avant. Et que d'un seul coup, c'est... Tout change, tout bascule. Les choses qu'on ne pensait pas qui reviendraient, c'est-à-dire la guerre, comme ça, en Europe, tout ça, depuis la Seconde Guerre mondiale, on était un peu tranquille. Il y avait des guerres, mais elles n'étaient pas chez nous. C'était, je ne sais pas où, au Kosovo.
Vous ne pensiez pas revivre quelque chose.
On ne pensait pas revivre quelque chose d'aussi violent. C'est-à-dire que. Plein de bombes et de tombes, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est ça maintenant aussi quand même, le danger il est là et il est toujours présent et c'est loin d'être fini, on ne sait pas comment ça va se terminer cette saleté.
Et c'est sur ce titre comme sur les autres qu'on découvre ou qu'on redécouvre donc cette voix si caractéristique qui est la vôtre, une voix extrêmement radiophonique, d'ailleurs nos auditeurs s'en rendent compte et quand vous chantez et quand vous parlez, Jean-Pierre Calfon, cette voix-là, ce sont les substances, c'est la cigarette qui l'ont façonné.
Écoutez, je ne sais pas ce qui m'a façonné, je sais que moi j'ai pas vraiment travaillé ma voix.
Vous n'en avez peut-être pas besoin. Si,
j'ai travaillé ma voix sur mes chansons, oui, pour arriver à être bien juste, pour arriver à être expressif, parce que j'ai été très admiratif de quelqu'un comme Amy Winehouse, justement, ou de Billie Holiday, Nina Simone, voilà, c'est le mot, que je cherchais tout à l'heure. Et vous voyez, quand vous avez des gens comme ça, bon... Je peux pas dire que... Et puis les grands chanteurs, Otis Redding, Bob Dylan, Elvis Presley, oui, tous ces gens m'ont fabriqué aussi. Et donc j'ai envie d'être à la hauteur, même si j'ai pas leur talent, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, j'essaye d'aller au maximum de ce que moi je suis capable de donner.
Mais à quel moment est-ce que vous avez réalisé que votre voix allait être en quelque sorte votre outil de travail, aussi bien en tant que chanteur que comédien?
Ben parce que... On m'a beaucoup employé vocalement. À un moment, j'ai fait beaucoup de pubs ou beaucoup de comment on appelle ça, des documentaires, vous voyez,
les voix off.
Documentaires et tout. J'ai vu que les gens aimaient beaucoup ma voix, donc je me suis dit, bah tiens, si les gens aiment ma voix, c'est qu'ils doivent avoir raison. Moi, je me connais pas.
On s'entend jamais soi-même comme les autres vous entendent.
C'est d'ailleurs. Ça. On s'entend, mais on n'a pas la même... moi, je me rends pas compte de de la qualité ou du défaut de ma voix. Mais bon, comme les autres vous le disent, ça vous rassure et vous avancez. Et comme je, musicalement, j'ai joué un peu de batterie, un peu de guitare, de basse, de piano, tout ça, mais j'étais pas un instrumentiste très performant. Donc, je me suis dit, il y a une chose que les gens aiment chez toi, c'est ta voix. Donc, travaille ta voix.
Voilà. Alors, il y a votre voix et puis il y a votre visage, votre gueule de cinéma. Comme on dit, une gueule qui a fait qu'au cinéma ou à la télévision, vous avez souvent eu des rôles de méchants. Alors, parfois des rôles de méchants au grand cœur et parfois des rôles de vrais méchants.
Hein, méchants.
Bon, ce sont des rôles qui vous allaient bien. Jean-Pierre Calfont, vous étiez fait pour jouer les méchants méchants ?
Je ne sais pas si j'étais fait pour ça, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai fait. C'est les gens m'ont vu comme ça. Je ne peux pas dire que j'aurais aimé aussi avoir des rôles des fois plus nuancés, mais j'ai eu des rôles plus nuancés. Oui. Je n'ai pas eu que des rôles de méchants. Mais en même temps, c'est des rôles qui vous permettent... Les rôles de méchants plaisent beaucoup au public, d'abord. ça plaît au public, ça les amuse. Et ils savent que vous n'êtes pas vraiment ce que vous
représentez. Et ça amuse le comédien que vous êtes aussi.
Ben oui, ça m'amuse. Parce qu'il faut aller au bout de quelque chose qui n'est pas soi. C'est pas moi, c'est
oui. Ce rôle-là. Vous me rassurez, vous avez en tout cas un regard extrêmement sympathique, extrêmement doux. Jean-Pierre Calfont, je peux en témoigner. En tout cas, sur ce disque, quand vous parlez de vous, eh bien, vous vous taillez un sacré costard.
Tête à claque, ahuré, indécrottable grand lâche. Anne pâtée, tronche de cake, boulet, fauderge, faux maringo. Cochonou, bras cassés, mytho, escroc, sale peau de vache. Tache vert de terre, gouja, jaloux, patate, méga. Mégalo, c'est le genre de costard que je me taille quand je me déteste. Toi dans ton stock privé, tu me repasses le complet, la totale pour l'hiver. Un maxi choix de veste de ton placard secret d'où tu tires tous ces beaux effets. Inutile de me saper, je me façonne ça moi-même. Avec des noms d'oiseaux, je me vole dans les plumes. Fiel pic van colibé, venin colère, anathème. Caché sous la façade d'un rire jaune qui me résume. Pas moyen de. Canner de la glace, mon œil au judin qui m'inspecte au laser. Si je me la pète, me scotch, double farce. Ton ombre au tableau qui me regarde de travers. Catastrophe naturelle, bécasse ventouse, bigoudi, dinde allumeuse, banane, cœur d'artichaut, tête de pioche.
Voilà, costard, c'est le titre de cette chanson. Bon, vous vous êtes beaucoup marré, j'imagine, en écrivant Jean-Pierre Calfont.
Bah oui, parce que j'ai trouvé qu'il y avait... j'ai réussi, à mon avis, à faire une dramaturgie à travers cette chanson. Au début, on ne sait pas à qui je m'adresse.
Non.
On croit que j'insulte la personne qui écoute. Et puis finalement, on s'aperçoit au milieu du premier refrain, du premier couplet, on s'aperçoit que c'est contre moi. Que
voilà, vous regardez dans la glace, en fait. Oui, c'est un peu ça. Hein.
Que je me critique moi-même. Et je trouve que dans la vie, bah, la première chose à critiquer, c'est soi-même.
Mais l'autodérision, c'est important quand on est artiste.
Bah, bien sûr. Bien sûr, pour ne pas se prendre au sérieux. Surtout quand on est, si on est aimé, si les gens vous permettent, vous laissent faire ce que vous voulez. Parce que moi, on m'a quand même laissé, on m'a laissé pas mal de liberté dans mes choix. Vous voyez, dans les choix de rôle, les choix de chansons. Là, j'ai tout écrit. J'ai écrit les paroles des 14 chansons qui sont sur le CD. Et franchement, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui croient en moi. Quoi. C'est ça, c'est une merveille, ça. Ouais.
Et parmi les chansons que vous avez écrites, il y a celle qui donne son nom à l'album, Méphistophélange.
Pandore se fait la malice, ta voix devenue d'or, tu l'as laissée offerte au bord du précipice où la vertu dévisse, prête à gagner, prête à gagner, à gagner ta perte. Rasoir dans le sourire, les fils t'ont fait l'ange, et mis sous son empire, tu joues à ce qui l'arrange, t'as tout ce qui démange. C'est bien ça qui me dérange, et toi le meilleur du pire, t'admire.
Méphistophélange, Jean-Pierre Calfon, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI, le titre éponyme, comme on dit, le titre qui donne donc son nom à cet album qui est sorti chez Deviation Records. Vous vous adressez à Amy. Alors Amy, il n'y a pas de suspense, vous avez déjà prononcé son nom à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, c'est évidemment Amy Winehouse. Pourquoi est-ce que vous avez placé cet album sous son étoile ?
Parce que pour moi, c'est une grande personnalité, c'est une diva, c'est un génie. Elle écrit ses paroles, elle compose ses musiques, elle chante, elle fait ça avec une facilité extraordinaire qui vous touche, qui vous prend au cœur, qui vous prend aux tripes, quoi. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça, quoi. Vous voyez, il y a eu... Aretha Franklin, par exemple, Janis Joplin. Je parle des gens récents. Hein. On a parlé tout à l'heure déjà de
oui, de Billie Holiday ou Nina Simone, et
voilà.
etc.
Et là, c'est, et si vous voulez, on a quelqu'un qui, sans faire d'effets spéciaux, qui vous touche parce que la façon dont elle s'exprime, on sent qu'il y a une vérité derrière, une vérité humaine, une véritable prise de conscience de ce qu'elle est et par rapport à la vie, par rapport au mal qu'on lui fait, par rapport au bonheur qu'elle peut avoir. Elle mélange un peu tout ça et elle sort des choses d'une simplicité.
Alors on va se plonger justement dans sa musique, juste pour le plaisir.
Shame, oh shame, babe.
Back to Black, Amy Winehouse sur RFI. Alors là, vous êtes aux anges en écoutant
C'est la beauté, l'âme, la facilité de la façon de transmettre les choses sans artifice. Mais en plus, elle chante en anglais, donc il y a une facilité dans cette langue pour tirer les sons. Pour en faire une espèce de matière vibrante comme ça. Et là, elle est la première. Là. Il n'y a pas de photo. Là.
Comment ce mot, ce titre de Méphistophélange vous est venu en tête ?
Eh bien, Méphistophélange, si vous voulez, Méphisto pour moi, Méphisto se déguise en ange pour pouvoir mieux vous attraper. Voilà, c'est ça, c'était ça mon idée. Alors peut-être son mec était un Méphisto et elle était un ange, peut-être pas, je ne sais pas, c'est pas ça, je ne veux pas rentrer dans faire de la psychanalyse de bazar, mais n'empêche que Méphisto fait l'ange souvent. On est tous doubles déjà, tous les êtres humains ont un côté sombre et un côté clair. Donc Méphisto fait l'ange et se déguise en ange. Méphisto, le diable, se déguise en ange pour mieux vous court-circuiter, quoi.
Mille soleils sous la pluie, couleurs qui l'émerveillent. Mais pour la peau des hommes, c'est la sienne qu'il préfère. Peur d'un mélange qui gomme la lignée de ses pères. C'est un solitaire sans éclat, tout content d'être une pierre qui ne brille pas. C'est un solitaire sans éclat.
Solitaire, Jean-Pierre Calfon qui est avec nous, un petit bijou, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est l'expression qui convient je crois cet album.
Exactement.
Bon, c'est un texte extrêmement ciselé, hein, on l'a compris. Comment est-ce qu'ils vous viennent vos mots lorsque vous écrivez une
Alors
chanson?
Ça si je le savais.
C'est un mystère.
Bah, un peu un mystère, oui, mais d'un seul coup vous avez des inspirations comme ça. Ouais, le solitaire, c'est bon, un homme, une personne est solitaire, mais c'est aussi, comme vous en parliez, c'est un bijou. C'est un bijou et ce... Alors, d'un seul coup, on se dit, tiens, mais si j'arrivais à composer un truc qui tienne compte de tous ces aspects de ce mot-là,
C'est gagné.
Ça serait pas mal.
Voilà. Alors, il y a Solitaire sur l'album, et puis un autre titre qui s'appelle Retour Solo.
Oui.
Et pourtant, cet album, c'est pas un retour solo, pour le coup. C'est vraiment une aventure collective. Hein. Il suffit de déployer la pochette. Il y a un visuel genre Voie lactée, et vous êtes au centre de la galaxie, en quelque sorte, Jean-Pierre Calfon, et vous me faisiez remarquer qu'autour de vous, il y en a 12.
Oui.
des personnages, des visages.
Oui, on l'a pas fait exprès.
Voilà, donc c'est un petit peu comme Jésus et les 12 apôtres, quoi.
Ah ouais, mais on n'a pas fait exprès, c'est arrivé comme ça, voilà. C'est la vérité des choses, vous voyez. C'est la beauté de la vie qui vous amène à des résolutions comme ça, quoi.
Alors, parfois, vous faites tout. Il y a des chansons 100% JPK, c'est signé,
oui.
JPK, donc comme Jean-Pierre Calfon, et parfois il y a des compositeurs qui vous accompagnent, oui. sur cet album.
J'ai fait deux chansons, j'ai fait Gypsy's Rock'n'Roll Band et j'ai fait Costa, et sans ça j'ai des amis qui s'appellent Paul Ives, qui est mort maintenant, qui a composé pas mal de ses musiques, Hugo Indy et Rurik Salé, qui ont composé de belles musiques pour moi, voilà. Et alors après on les a arrangées avec François Causse, que et réalisateur de l'album et mixeur aussi et tout, et voilà, c'est un travail commun en effet. Puis on a d'abord travaillé les bases rythmiques avec le bassiste Christophe Garot, et les guitaristes, et puis en plus on a rajouté après des sax, cuivres, trompettes. Un clavier, vous voyez.
Voilà, donc ça se construit en sédimentant en quelque sorte,
oui,
les différentes
par couches successives. Oui.
Voilà, vous parliez de Gypsy's Rock'n'Roll Band,
oui.
Chanson donc 100% JPK, on l'écoute.
égard, elle m'a pris dans un punky boogie la vie. À peine sortie de la clinique, la guerre, la panique. Père importé, mère papiste, bâtard bien moulé, un soliste. J'étais fait pour cette bande de rock'n'roll nomades, gypsies, rock'n'roll band. L'école, la colle, j'décolle pas triste, me mettre chiffon vers l'artiste. Belle embellie sur la route, droit devant, pas de temps pour le doute. Jamais parti de rien, concerné partout. Quand je déguste, je n'achète pas fou, rien que du gypsies, rock'n'roll. Il faut filer dans une pause, survolter le sang trop chaud. L'écho me répète, c'est je t'aime, il y a qui pour le prouver. Mon mouillard, je te vois pagailler et mousser auprès de la crème. Laisse-moi rejoindre cette bande de rock'n'roll nomade. Gypsies, rock'n'roll.
Gypsies Rock'n'Roll Band, Jean-Pierre Calfont, une chanson, elle n'est pas nouvelle cette chanson, elle a été réorchestrée là pour le coup.
Oui, c'est-à-dire que je l'avais fait en 1980, je l'avais enregistrée à Londres, les paroles j'étais pas très content des paroles, je trouvais que la chanson elle-même, elle tournait sur quatre accords et ça manquait d'ouverture. Alors donc j'ai réussi à trouver un autre plan de musical et aussi d'écrire des paroles qui me concernent beaucoup plus. C'est un peu la chanson dans laquelle je me présente. Je raconte un peu ma vie là dans cette chanson.
Bon, c'est les années rock'n'roll band. Est-ce que ça signifie que quand on est rock'n'roll, ben on n'est surtout pas yéyé, quoi. C'est, historiquement en France, c'est un petit peu ça quand même. Vous avez très bien compris pourquoi je vous pose la question.
Bien sûr, bien sûr. J'ai joué et tourné dans une pièce de Marco avec mes amis Pierre Clémenti, Bulogier, qui s'appelle Les Idoles. Et Les Idoles étaient une espèce de charge contre les yéyés.
Satire du milieu du showbiz, ouais, de ces années yéyé. La fabrication des artistes,
voilà,
pour faire simple.
Ouais. Exactement. Et si vous voulez, ça m'a même donné la pulse pour bien me rendre compte de ce qui était sincère et de ce qui était du business. Comme dit Marco, dans le mot show business, le mot show, il est très bien, c'est le mot business qui ne va pas, quoi.
Ah, et vous en avez aussi fait, enfin Marco en a fait aussi un film, bonne annonce.
Nous vous parlerons d'abord du début de notre grand super show. Les idoles du clan. Ensuite, les idoles du clan. Simon, Charlie et Gigi répondront à vos questions.
L'idole est l'incarnation en un individu de l'aspiration à la réussite des autres qui n'y parviendront jamais. Soyez connus, faites-vous connaître.
Combien gagnez-vous?
Avez-vous des rapports charnels?
Êtes-vous des communistes?
Nous allons vivre ensemble, tous les deux,
comme il vous plaira.
Bon d'accord, je suis fini.
Gigi et Charlie, vous allez me faire le plaisir de vous marier, et vite!
À combien d'exemplaires avez-vous vendu votre dernier disque?
2 300 000 exemplaires, mon père.
Ce mois-ci, il a été vendu en moins. 38 704 disques du dernier 33 tours de Charlie.
Et 38 710 disques en moins du dernier 45 tours de Gigi.
Nous ne pouvons soutenir deux vedettes qui déclinent.
Et nous nous embrassions, nous nous adorions, l'amour nous faisions.
Les Idoles en 68, quel souvenir gardez-vous de ce film, Jean-Pierre Calfont?
Oh, mais une merveille. La pièce. Avant de faire le film, on a joué la pièce. Malheureusement, le film est sorti en 68, comme vous dites.
Année compliquée pour le titre.
Oui, les gens avaient d'autres choses à faire. Ils préféraient jeter des pavés sur les flics que d'aller au cinéma. Mais n'empêche que c'est devenu un film culte et qui repasse sans arrêt. Voilà. Parce qu'il décrivait déjà ce qu'était le showbiz français. qui n'avait pas que des qualités.
Alors vous avez tourné énormément, hein, Jean-Pierre Calfon, avec Truffaut, Lelouch, Rivette, Godard, Chabrol, pour parler entre autres de la nouvelle vague. Vous êtes un des visages de cette nouvelle vague. Godard, il est mort il y a un peu plus d'un mois maintenant. Quel souvenir est-ce que vous garderez de Jean-Luc Godard ?
Oh, bah, plein de souvenirs, des bons souvenirs. Il m'a fait faire des scènes formidables dans le film qu'on a tourné ensemble dans Weekend. Jouer de la batterie en disant un texte des chants de Maldoror.
De l'Autréamont,
d'Isidore Lucasse. Donc, et puis aussi, on devait faire un autre film sur le journal d'un séducteur d'après Kierkegaard. Puis est arrivé mai 68, il a laissé tomber ce projet. Mais par contre, il m'a là aussi une très belle chose qu'il a fait. Une chose très sympathique, en tous les cas, c'est de m'emmener. Quand il enregistrait les Rolling Stones qui posaient les bases de Sympathy for the Devil au studio Olympique à Londres, il m'a emmené à Londres pour les voir parce qu'il savait que j'aimais bien leur musique et que j'aimais bien leur réalisation. Voilà. Et alors, c'est quand même. On peut dire du mal de. Moi, je ne peux pas dire du mal de lui. Je veux dire, j'ai eu que des bonnes choses avec lui. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Calfon, d'être passé nous voir dans VMDN sur RFI. L'album Méphistophélan, je vais découvrir chez Deviation Records. Allez, on se quitte sans état d'âme.
Plus d'état d'âme, elle te sourit, file avec charme vers la sortie. Ça te désarme, tu la trahis. Éteinte la flamme, bientôt l'oubli. Les jeux sont faits, tu prends une claque. Le cœur forfait, trop tard tu craques. C'est sans espoir, elle te l'apprend. Tu vas savoir pourquoi, comment. Tout est secret, tes faux fuyants, pauvres regrets se perdent au vent. Et à jamais, comme tes tourments. Elle se fait la valise, sans emporter de bagages. C'est le grand large qu'elle vise, quand elle te tourne la page. Tu tournes en rond dans ta rage. Elle te l'apprend. Tu vas savoir pourquoi, comment. Tout est secret, tes faux fuyants, pauvres regrets se perdent au vent.
Plus d'état d'âme, Jean-Pierre Calfon sur RFI, direction Vienne en Autriche, où pour la première fois, un musée, en l'occurrence l'Albertina, consacre une grande rétrospective à Jean-Michel Basquiat, autre personnalité du club des 27 qu'on évoquait tout à l'heure, hein, ces stars qui, à l'instar d'Amy Winehouse, de Kurt Cobain, de Jim Morrison, de bien d'autres, sont décédés avant l'heure, à l'âge de 27 ans. L'exposition retrace l'engagement politique et artistique de Basquiat à travers 50 œuvres. Isorias l'a visité pour nous, reportage.
Né en 1960 à New York, d'un père haïtien et d'une mère portoricaine, Jean-Michel Basquiat commence sa carrière artistique comme graffeur. Rapidement repéré, il est exposé dès le début des années 80. La rétrospective qui lui est consacrée à l'Albertina montre plusieurs de ses premières œuvres, dont Polo Frito, une œuvre symbolisant le danger des rues new-yorkaises à cette époque, dans laquelle on trouve déjà les fondements de son art, explique le commissaire Dieter Borchardt.
Ce qui est fascinant dans cette œuvre, c'est qu'il y a un nombre impressionnant de symboles et d'idées. On voit que son langage était en place dès ses débuts. Il l'a simplement enrichi par la suite. On retrouve déjà le symbole de la couronne, les formules tirées des panneaux d'affichage dans l'espace public, mais aussi son approche scientifique avec des listes et des comparaisons. Tout cela était déjà présent.
Basquiat rencontre Andy Warhol en 1982. Les deux artistes se lient d'amitié et vont ensemble créer plusieurs œuvres. Si cette rencontre aide à Basquiat à se faire connaître, on exagère souvent l'influence du pape du pop art sur son œuvre.
Basquiat a davantage influencé Warhol que Warhol n'a influencé Basquiat. Là où Warhol a vraiment eu une influence sur Basquiat, mais aussi sur l'ensemble de la scène artistique new-yorkaise, c'est dans sa volonté d'ouverture à tous les médias. Basquiat jouait de la musique, il était DJ, mais aussi acteur. Il faisait énormément de choses.
Ce va-et-vient entre diverses disciplines se retrouve également dans ses œuvres. Si le dessin occupe une place centrale, Basquiat fait très souvent intervenir la langue dans ses créations. Ainsi convoqués, les mots se chargent alors d'un sens nouveau.
Il remplace l'objet par le mot. Par exemple, il écrit le mot « dent » au lieu d'en dessiner une. Il était très conscient du fait que le langage est un moyen de communication puissant et parfois blessant. Les mots peuvent être des armes. En franchissant les frontières entre les disciplines, comme il le faisait, il créait une nouvelle manière de penser, s'ouvrait à des idées nouvelles à travers son art.
Le fil rouge de l'œuvre de Basquiat comme de l'exposition est sa défense de la Black Identity. Basquiat, qui fut lui-même victime de discrimination, n'a eu de cesse dans son art de dénoncer le racisme, les violences policières envers les Afro-Américains et de valoriser l'identité noire et l'héritage africain.
Il était très politique. Il ne voulait pas s'exprimer à l'aide d'un mégaphone, mais plutôt à travers son art. Il n'a pas voulu rejoindre le mouvement des Black Panthers ni aucun autre mouvement radical, car il voulait peindre. Mais dans ses œuvres, on voit qu'il a évolué et c'était une manière d'appeler au changement. Cela peut faire penser au slogan d'Obama « Yes, we can ». De ce point de vue, il a eu une forte influence sur la société et il l'a toujours. Il rend beaucoup de gens fiers d'être ce qu'ils sont. Il leur a montré la voie pour cela.
Basquiat meurt d'une overdose à l'âge de 27 ans. Près de 35 ans après sa mort, il reste une icône et continue d'inspirer, par son engagement politique et artistique, des générations d'artistes et de citoyens.
Reportage d'Isorias à Vienne en Autriche. Et je précise que notre invité Jean-Pierre Calfon sera en concert le 12 décembre prochain au Petit Bain à Paris. Dans un instant, le journal sur RFI. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de nous écouter. À demain. Et vous m'en direz des nouvelles.